Ja, lass mich mal. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous... Que je vous ai dit, c'est vrai, que je crois au miracle de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que le christianisme ne soit pas un paganisme. Je dis, mon Dieu, s'occupe de toutes ces créatures à leur manière. Alors on revient, nous sommes un monothéisme français. On revient au problème. À l'intérieur, donc, de ce sursis général donné à Caïn, l'histoire prouvera qui était Caïn. Voilà que, prenez le chapitre, le verset 17, « Vayeda Caïn et Fisto, Caïn a connu sa femme, Vatahar, elle conçut, Vatele et Hanoch. » Voilà qu'il a un fils que la Torah appelle Hanoch. Vous avez remarqué dans la même expression que la Torah ne dit pas « Elle eut un fils et elle l'appela Hanoch. » Elle enfante un enfant qui s'appelle Hanoch. On reprend un peu l'analogie que je vous avais donnée avec Caïn. Vatele de Caïn. Et pas Vatele de Ben, Vatele de Chenou Caïn. Vous avez entendu un mot ? Et alors, ça c'est un Hanoch de la lignée de Caïn. Nous retrouvons un Hanoch dans la lignée de Sheth, à la 7e génération de Sheth. Je crois que je vous en ai parlé la semaine dernière, si mes souvenirs sont exacts. C'est pas le même. Mais il y a le même nom. Il y a la même connotation de signification du nom et donc d'identité. Voilà l'explication que je voulais vous proposer, c'est que la capacité de fraternité qu'il y avait dans Abel et qui a été supprimée par Caïn va être restituée dans sa fonction éducative ou éducatrice dans la personne du fils, pas du frère. Alors là, le vocabulaire chrétien à part, je ne voudrais pas qu'il y ait des risques de court-circuitage. Okay. C'est-à-dire, le fait de prendre conscience qu'il y a une autre manière d'être que celle de l'homme Caïn, c'est l'enfant. Ceci peut être une aide à retrouver la dignité de l'autre. Alors, je vous envoie les expressions père et fils. Le père, c'est Caïn, le fils, c'est Hanoch. Mélangez pas ça avec ce dont on a parlé tout à l'heure, ce que les chrétiens ont fait de ces catégories qui sont d'origine du hébraïque. C'est Caïn devient père quand il a un fils. Et là, se restitue la relation à autrui, plus atténuée, pas la même que de frère à frère, d'une autre manière, mais quand même. Le fait qu'il y ait une autre manière d'être homme que la sienne, qui devient père parce qu'il a un fils, peut restituer cette relation d'autrui à autrui. Est-ce que j'ai suffisamment expliqué ? D'ailleurs, quand vous aurez des enfants, vous vous en rendrez compte, l'autre que soi. On n'a pas accepté le frère comme autre que soi. Mais peut-être que le fils, on va l'accepter comme autre que soi. C'est clair l'idée ? Donc ici, le fils comme fils peut être, mettez des guillemets, le sauveur de Caïn. Vous voyez d'où ça vient, tout ça, toujours ça. Alors, je reviens au problème. Il s'appelle Hanoch. Ça veut dire que Caïn pourrait être éduqué dans la dignité de l'autre, dans le problème de la dignité de l'autre, par le fait qu'il a un fils. Vous voyez comme le texte est très précis. Okay. Dans ce sursis général, quelle est l'aide que Caïn peut avoir pour essayer de s'en sortir, cette manière d'être homme qui s'appelle Caïn, d'avoir un fils comme tel, il est Hanoch. Vayi Boneir, il construisit une ville, vous voyez Rashi, et d'après la construction de la phrase, c'est Caïn qui construit une ville. Et il nomma le nom de la ville comme le nom de son fils Hanoch. Alors c'est le cours d'aujourd'hui qui commence là. C'est la deuxième, la troisième, la catastrophe. Alors je vous dis plusieurs lectures jusqu'à ce qu'on arrive au sujet lui-même. On serait tenté de lire, si on est extérieur à l'exégèse biblique traditionnelle, à la Torah Chevalpé, que ici la Torah nous raconte une anecdote après tout. Qu'est-ce que peut nous faire que Caïn, pour honorer son fils, a appelé la ville du nom de son fils. Par exemple, je ne sais pas, il y a une ville en Russie qui s'appelle Stalingrad. Alors, si c'est cette lecture-là, ça serait un peu anecdotique. Bien. Vous pouvez trouver des explications de ce genre, ou entendre des explications de ce genre. Qu'est-ce qu'on a voulu dire ici? Eh bien, pour honorer son fils, il a donné le nom de son fils à la Bible. Ça ne suffit pas. La Bible, c'est un récit d'anecdotes contingentes. Ça ne fait pas le poids, si j'ose dire. C'est ce que le Zohar appelle pour condamner ce type de lecture, s'y pourrait des duretés. La Bible ne raconte pas des histoires banales. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris depuis le début que vous étudiez, dans tout ce que vous étudiez, que c'est sérieux, qu'on ne va pas avoir entre les mains un livre qui a ébranlé l'humanité entière, un livre qui nous raconte des petites anecdotes. Je pense que c'est clair. Et alors, nous allons ici découvrir un thème que je vais essayer de vous expliquer d'abord abstraitement, théoriquement, en vous donnant une confirmation, disons, dans un autre chapitre du livre de Revêchis. Et voilà ce que je vais expliquer, c'est que nous devons déceler dans cette chute de génération en génération, à travers ces catastrophes qui mènent au déluge, nous devons déceler finalement quelle est la catastrophe qu'il y a là quand l'homme donne le nom de l'homme à la ville. Et bien jusque-là, le nom désigne la valeur et donné à l'homme, à la personne humaine. On enlève le nom à l'homme et on le donne à la ville. C'est la ville qui est nommée, c'est plus l'homme. Et l'homme n'est plus qu'un administré de la ville. Avant d'aller plus loin dans l'approfondissement, je voudrais être sûr que l'idée est suffisamment claire, parce que c'est vous qui m'entendez, moi je m'entends pas. Jusque-là, c'est l'homme qui est nommé. Vous avez dans un des chapitres précédents le fait que la grande prérogative de l'homme, c'est d'être capable de donner des noms. Il y a un midrash qui explique, lorsque Dieu a créé Adam, les anges étaient contre. Ce midrash, ça vaut la peine que vous l'étudiez, je ne crois pas d'ailleurs. Et puis, le midrash continue, et les anges demandent, mais Martivo Shelze, ça veut dire, faites-moi traduire, Martivo Shelze, qu'est-ce qu'il a de bien, cette créature-là? Qu'est-ce qu'elle a de bien, cette créature-là? Et Dieu répond, et il sera capable de nommer les êtres et les choses. C'est sa prérogative. Or, le nom, jusque-là, est réservé à l'homme. C'est l'homme qui est nommé. Vous aurez une parenthèse. Et la catastrophe, on enlève le nom à l'homme, on le donne à la Bible. Vous voyez tout de suite, le fils de Hanor va s'appeler Irad. Vous voyez, dans le nom de Irad, il y a le nom de Eir. En prenant les termes que je vais employer dans le sens du sujet, c'est plus un homme, c'est un citadin, dans le sens étymologique, un membre de la fourmilière qu'on appelle la cité. Vous avez compris ça? Il s'appelle Eirad. C'est aussi impersonnel, bien fait. Attends, je reviens ce que je dis. À propos de qui? De Eirad. Bien fait, ça devient impersonnel. Et vous savez, dans l'ancien français, quelqu'un qui habitait un bourg, on l'appelait un bourgeois. Quelqu'un qui habitait une ville, on l'appelait un vilain. Non, c'est vrai. Non, on est un village. Villageois. Le vilain, c'est l'habitant de la ville. Et ensuite, les bourgeois, appelés les vilains, qui sont vilains. Mais on peut utiliser ça dans l'ancien français. On peut utiliser ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je pensais aux villes du Moyen-Âge. Vous voyez, tous ces tableaux du Moyen-Âge, on vous montre des vilains qui n'étaient pas habillés de la même façon que les bourgeois. Vous vous rappelez de cela? Qu'est-ce que vous voulez dire?
La ville qui donne le nom à l'individu. Vous en étiez.
C'est quoi?
Vous cherchiez votre idée, je voulais vous dire, vous en étiez à la ville qui donne le nom à l'individu.
C'est l'inverse. C'est l'individu qui a donné son nom à la ville, Habibi.
Mais la génération d'après, c'est la ville qui...
C'est plus un nom, c'est plus un nom. C'est un numéro sur une carte d'identité. Vous voyez, la personne continue à être assassinée. C'est la ville impersonnelle, le monstre, qui devient la valeur. On rentre dans l'impersonnel absolu. Vous avez ces livres de science-fiction assez inquiétants, terrifiants, qui vous montrent la société des robots en marche, les ordinateurs, et la personne humaine assassinée là-dedans. Par exemple, le meilleur démon de Orson Welles, comme ça que ça fait celui-là. Hein? Machu Kazé. Ce genre de livre-là. Vous voyez, je vais vous ouvrir une parenthèse. Il est certain que, quand on étudie ça en anthropologie, que dans toutes les sociétés anciennes, je n'ai pas dit primitives, anciennes, on savait que c'est le peuple qui a le nom, et pas l'endroit qu'il habite. Et puis, je prends l'exemple de la France, que je donne habituellement, vous allez voir le déplacement de la valeur. On va faire ça comme un conte de fées. Jadis, il y avait les Francs, un peuple, les Francs. Et puis on a pris le nom du peuple, on l'a donné au pays, la France. Maintenant, il n'y a plus que des Français. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas francs, mais vous comprenez, je dis. Il y avait les Francs. C'est cette manière d'être homme qui est appelée les Francs. Et puis maintenant, il n'y a plus de Francs, il y a la France. Et puis alors, il y a les Français, les citoyens de la France. Et la France, ça passe avant les Français. Vous vous rappelez de Gaulle ? Je me suis toujours fait une certaine idée de la France. Et les Français, Pompidou vient après, il dit les Français, c'est des Gaules. Vous vous rappelez de ça ? Bon, c'est pas seulement anecdotique, c'est une espèce de processus qui se produit, c'est clair, qui se produit finalement à peu près dans toutes les cités, sauf en Israël. Et là, j'ouvre la parenthèse. C'est le peuple d'Israël qui s'appelle Israël. Le pays d'Israël s'appelle le pays d'Israël, Eret Israël. C'est le peuple qui s'appelle Israël. Est-ce que c'est clair ? Mais il est certain que, à l'origine, tous les peuples avaient cette conscience. Ce sont les hommes qui sont nommés la manière d'être et pas le pays. Et Hamakom Mechabed et Adam et la Adam Mechabed et Mekom. Ça, c'est une gamara. Vous voyez ce qui est arrivé au Goïm. Ce qui arrive là, on prend le nom de l'homme, on le donne à la cité. Et après, vous n'avez plus que les citadins. Qu'est-ce qui se passe du point de vue de notre problème ? Il n'y a plus de problème moral. Quelle que soit la réaction de telle ou telle conscience d'élite qui réagit au nom de la morale. Il y a un problème d'administration de la société, qui est un problème impersonnel, de sociologie. Et la catastrophe, c'est ce qu'on appelle la morale sociologique. Vous voyez ? Cet approfondissement de l'engloutissement de la personne dans l'impersonnel. Vous savez très bien que c'est le drame des sociétés contemporaines. Comment empêcher le monstre municipal, bureaucratique, de finir d'assassiner la personne humaine. Vous savez que tous les problèmes de la dignité du chacun qui est chacun viennent de cette confrontation entre la morale et l'administration. C'est clair jusque-là. On retrouve d'ailleurs le problème, la différence entre la morale et la légalité. Voilà, là il y a une catastrophe. Et on le sent dans le récit. Et voilà, le malheur qui arrive, Vaïkra, Shemaïr, Keshem, Benocha, catastrophe. Ça veut dire, Caïn est aidé dans son histoire par l'apparition du fils comme fils. Le fils peut éduquer le père. Bera Mezakeaba. Le fils peut sauver le père, si vous voulez. Et, mais voilà, qu'est-ce que fait le père ? Il assassine le fils en tant que fils, en donnant le nom de l'homme à la cité. Ça va jusque-là ? Bon, si c'est clair, je peux vous donner une illustration en faisant une parenthèse dans l'histoire des patriarches. Le chapitre 30, vous êtes au-dessus, 34, je vais dire. Dans le récit, je crois que c'est 34. C'est 34, le chapitre 34. Je vous demanderai de lire attentivement par vous-même. J'ai oublié, je sais pas qu'on est arrivé là, de vous dire la semaine dernière, de vous dire à l'avance, mais vous le lirez. Pour compléter ce que je vais vous indiquer, c'est plein d'études à faire, mais je vais raconter l'histoire. Chapitre 34. Lorsque Jacob revient de l'exil de chez Laban, il s'arrête à un endroit qui s'appelle Shrem, Sichem en français, Naplouse chez les Arabes. D'ailleurs, ils disent Naplouse, parce qu'ils ne peuvent pas prononcer le P. Vous savez cela que les Arabes, ça aide beaucoup la police pour savoir à qui on a. Et alors on leur demande où sont tes clés. Allez, à Mortea. Et ils n'ont pas de Torah chez Balpé. Pour revenir au problème, il y a un endroit qui s'appelle Shrem, et on apprend que le prince de la ville est tombé amoureux de Dina et a voulu se marier avec Dina. Seulement, il s'est conduit en barbare, il l'a violée. Alors les frères de Dina, Shimon et Lévi, ont assassiné tous les gens de la rue de Hachem. Voilà, grosso modo, l'histoire qu'on nous a racontée dans ce chapitre. C'est plein de questions. Entendu qu'il y a une question qui fait problème. Mais avant de les assassiner, les ont circoncis. On se demande ce que c'est que ce récit. Et pourquoi tu te fatigues à les circoncis? Les frères sont circoncis pour attendre qu'ils soient fatigués à cause de la circoncision et pouvoir en profiter. Mais si déjà deux Hébreux, frères de Dina, peuvent assassiner une ville, circoncis ou pas circoncis, c'est que c'est déjà un peu. Bon, tout ça c'est plein de difficultés qu'on étudie. Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Qu'est-ce que c'est que cette scène qui nous est racontée? Or, on s'aperçoit dans ce chapitre que Jacob, jusqu'au bout, tient à ce que le mariage se fasse, bien que il sait ce qui s'est passé. Que Shrem a d'abord violé Dina et ensuite il est venu la demander en mariage. Vous voyez quelles sont les conditions dans l'histoire. Alors je prendrai le problème par là. Comment comprendre que Jacob, arrivant à Shrem, prépare le mariage de Dina? Et pourquoi c'est là-bas qu'il va pour ça? Alors il faut d'abord se rappeler que, normalement, a priori, il aurait dû avoir 13 tribus d'Israël. Mais Jacob n'a eu que 12 garçons et une fille. Un Midrash indique que même cette fille, Dina, aurait dû être un garçon. Il y a des raisons pour lesquelles elle est née comme une fille. Et tant que nous n'avons pas une 13e tribu, l'unité d'Israël est en question. Je vais assez rapidement dans l'analyse, vous m'arrêtez si c'est trop rapide ou si c'est pas assez clair. Vous savez d'ailleurs que le mot de Echad, qui signifie un en hébreu, a pour gamatria 13. Il faut être 13 pour être Echad. Il y a 13 dimensions de l'unité. De la même manière qu'on parle des Shlosh Esrei Midot, du dieu 1, on parlera des Shlosh Esrei Shvatim, du peuple 1. Les 13 tribus d'Israël correspondent aux 13 attributs de l'unité de Dieu, ici on est aidé par le prince. Tribu, attribut. Et voilà qu'il en manque un. Et nous savons que s'il en manque un des 13, l'unité manque. C'est ce qui ressort, on dirait dans notre texte, du dialogue entre les frères de Joseph et Joseph. Quand ils disent, il y en a un, on ne sait pas où il est, il dit comme ça, « Veha echa denenu ». Au lieu de dire « echa denenu », il dit « Veha echa denenu ». C'est-à-dire, si un manque, ha echad manque, l'unité manque. Et alors, on voit que Jacob va être préoccupé par ce problème de la 13e tribu toute seule. Je vais le récapituler. Il a espéré que Shrem pourrait être le mari de Dina et fonder la 13e tribu. C'est ce qu'il discute avec ses fils. Okay? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que Shimon et Lévi interviennent et ils disent à Jacob, nous ne sommes pas que les fils de Jacob, nous sommes Israël, et en Israël on n'accepte pas ça. Jacob, comme Jacob l'aurait accepté, mais Israël ne l'accepte pas. C'est un autre thème, mais réfléchissez à l'avance. C'est deux niveaux d'identité. Jacob, qui n'est que Jacob encore, et quand il reçoit les noms d'Israël, c'est un autre niveau. Est-ce que c'est clair? C'est ce que dit Shimon et Lévi. Est-ce qu'une crapulerie pareille en Israël, c'est possible? Alors que Jacob semble être conciliant. Quel? Ça fait partie du sujet?
Même pour tuer Israël, par la charge de Yahya, pourquoi il le reproche pas tout à fait?
Tu me rappelles la question juste après, et il ne la reproche pas, il est félicite. Alors, je sais bien qu'on peut lire comme s'il la reproche, mais suivez le derrière. Okay? Mais tu as posé une bonne question. Je ne me laissais pas partir avant de te répondre, on a le temps, et là on n'a pas le temps. Alors je te réponds la prochaine fois. Bon, mais j'aurais voulu te répondre tout de suite. Alors tu reposeras la question la prochaine fois. Comme ça, la prochaine fois, je te réponds tout de suite. Alors on revient au problème, que je finisse rapidement. Et ce problème de la différence de niveau d'identité Jacob et Israël, c'est un sujet pour lui-même que j'espère on arrivera à retrouver. Okay? C'est un sujet très important pour nous aujourd'hui. Nous sommes revenus de la galoute au niveau Jacob. Il faut devenir Israël. Et les Israéliens ont pour idéal le niveau Israël. Les Juifs de la Gola ont pour idéal le niveau Jacob. Vous apprendrez que Israël, dans la Galoute, s'appelle Jacob. Revenu en Israël, il s'appelle Israël. On apprendra l'histoire de Jacob. Donc, c'est deux niveaux d'identité radicalement différents. Et il y a beaucoup de Juifs dans le pays, d'ailleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas que des Israéliens. D'ailleurs, nous sommes tous d'origine juive. Enfin, la plupart. Il y a aussi des Druzes, il y a aussi des Tcherkesses, mais ils sont israéliens. Mais ça, on verra ça quand on y arrivera. Et c'est pas mal, les Arabes, c'est un cas particulier, on est en guerre, mais il y a d'autres qui ne sont pas juifs et qui sont israéliens dans le pays. Et on préférait qu'ils soient des juifs, mais les juifs préfèrent être ailleurs. Donc, vous savez, je me rappelle quand j'étais à l'armée, et on me disait, un juif est tailleur de son métier. Je crois que la vue dans le bien d'un tailleur, tous les juifs seraient là. Un juif est tailleur de son métier. Comme le tirailleur, il tire ailleurs. Ah, je reviens pas. Là, c'est grave ce que je vous dis là, je vous dis comme ça en passant. Mais le fait qu'il y ait trop de juifs dehors et pas assez ici, c'est un problème. Et c'est un problème qui nous est raconté par la Torah. Alors, je reviens à la question. Ce qu'il faut découvrir, c'est cette stratégie de Jacob qui cherche, avant de mourir, à ce qui est très stridé. Effectivement, ça échoue. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Finalement, la tribu de Joseph, il la divisera en deux, et ça fera 13. Joseph disparaît, se cache, derrière Ménaché et Ephraïm. Ça fait 13. Au moment de la faute du veau d'or, ça vous l'étudierez pour elle-même, la tribu de Lévi sort du compte des 13, il en reste 12, avec Lévi, ça fait 13. Vous faites? Donc. Et alors, ce qu'il faut découvrir ici, c'est que Jacob va dans un endroit où il sait que déjà la ville commence à rendre le nom à l'homme. On découvre que la ville s'appelle Shrem, et le fils, le prince, s'appelle Shrem. Donc c'est pas n'importe où il va. Oui. Avec qui il veut contracter mariage, pour qu'il y ait unité d'Israël et en même temps unité avec l'ensemble des Goïm, avec cette manière d'être homme chez qui la capara de Tikkun a déjà commencé. Quelque part, la ville commence à rendre le nom à l'homme. Voilà ce qu'il faut découvrir dès le début du chapitre. C'est clair? Alors c'est pourquoi on sent cette préfiguration que Jacob voit à l'avance. C'est avec Shrem qu'on fera la troisième tribu. Ça échoue maintenant, mais c'est le rêve jusqu'au bout. On cherche, si j'ose dire, le prince Arthur. On découvre que le prince Arthur, c'est un barbare. Mais on a découvert que ça aurait pu exister. Espérance. Vous savez, les Juifs du monde, dans le monde, pendant 2000 ans, ont cherché le prince Arthur partout. Les Juifs en France étaient persuadés qu'il était français. Les Juifs en Russie étaient persuadés qu'il était russe. Et etc. Sauf qu'on s'est aperçu que sans aucune exception, Shrem était un barbare. Alors on est revenu. Mais ça, je reprendrai plus en détail. Au moment de la Révolution française, les Juifs français étaient persuadés que Shrem de la Bible, c'est le français. Et finalement, il y a des Français qui sont racidés au Mont-Aolam. Mais le français comme tel, c'est le Shrem barbare. Vous savez, les procès qu'on a avec la France, bien, en tant que juif et en tant qu'israélien. Et ça veut dire qu'on les a avec les Français. Il y a des Français qui sont des tzadikim. La France comme telle, les Shrem. De la même manière que l'Allemagne, que l'Angleterre, que l'Amérique, etc. Il y a des chassidés au monde à Hollande. Mais la manière de prendre dans cet état, qui est leur état, ça, c'est l'histoire de Shrem. On a cherché ce prince Arthur partout. Et vous savez à quel point les Juifs, comme Jacob, ont cherché à faire mariage avec une naïveté profonde. Les Juifs de la Révolution française étaient persuadés que Shrem, c'était l'homme des droits de l'homme et du citoyen. Alors c'est ça qu'il faut découvrir. Et voilà ce qui se passe donc dans ce récit. Je reviens sur l'épisode de Shrem de la famille de Caïn, pour vous montrer une lecture qui va vous aider un peu à réfléchir. Préparez en tout cas, si vous voulez, ce chapitre 34 pour la prochaine fois. Je répondrai aussi à ta question. Et vous réfléchirez à la question que je vais poser. Qui aura une idée? Pourquoi ils les ont circoncis avant? Réfléchissez à ça. Alors, on reprend notre verset 17. Je vais vous donner une indication de la Kabbalah, qui est un autre niveau d'exégèse, mais pour vous indiquer qu'effectivement, ce thème d'enseignement a beaucoup préoccupé la Torah Shebaalpé. Qu'est-ce qui se passe là? Regardez bien. Vaikra, la fin du verset 17. Vaikra Shemaïr Keshem, Beno Hano. Or, vous connaissez les Ta'amim de la lecture de la Torah? Sous le mot de Keshem, il y a un Tarha. Je vous le dis en intitulé Sfarad parce que on dit Tipha, si vous connaissez. Okay? C'est un accent disjonctif, comme s'il y avait une virgule qui sépare. Alors, je lis avec vous. Et il nomma le nom de la ville Keshem. Beno Hanour, son fils était Hanour. Or, Keshem, c'est les lettres du mot Shrem. Comme si cette ville, c'était Shrem à l'origine, d'une autre manière, d'une certaine manière. L'endroit où on a donné le nom de l'homme à la ville, c'est là-bas qu'on va chercher si la ville n'a pas déjà rendu le nom à l'homme. Vous suivez ? Vaikra et Shemaïr, Keshem, Otiot, Shrem. Ça y est, c'est clair ? C'est une indication pour vous montrer des niveaux de lecture plus profonds. N'ayez pas de cauchemar. Toute la Bible, c'est comme ça, à 70 niveaux. Alors, c'est la Torah, c'est pas des derniers niveaux. Bien, alors on prendra toutes ces questions. Je pourrais te parler 5 minutes après le coup. Oui. 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 Oui.
Oui. Vous avez dit qu'il y a un nombre de fois, c'est de la vie.
C'était quoi?
Que Freud a tiré de bras.
Ah, c'était pour hier.
Oui. C'est pas pour vous. Non, c'est juste pour la référence.